Kairoua, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 9 novembre 2023. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sédoudia. Tout d'abord, les titres. Au Tchad, adoption d'un projet de loi amnistiant les personnes impliquées dans les événements du 20 octobre 2022. Au Mali, l'armée dit frapper des blindés laissés par l'ONU en cours de retrait. Au Burkina Faso, une douzaine de dissidents réquisitionnés dans la lutte anti-djihadiste dénonce Human Rights Watch. En Guinée, récompense offerte pour la capture de Claude Pivi, toujours au large après l'opération Commando de samedi. Les États-Unis frappent un site lié à l'Iran en Syrie. Nouveau débat des préliminaires des primaires républicaines hier en Floride. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Au Tchad, le gouvernement a examiné et adopté hier en Conseil extraordinaire des ministres un projet de loi amnistiant les personnes impliquées dans les événements du 20 octobre 2022. Événements au cours desquels entre une cinquantaine et 300 personnes avaient perdu la vie. Les précisions de Mohamedou Houmfa.
Selon le compte rendu du Conseil des ministres, le dit projet de loi a été présenté par la ministre secrétaire d'État en charge de la justice. Il vise à accorder une amnistie générale pour les faits commis pendant les événements du 20 octobre 2022 et l'amnistie couvre les infractions pour lesquelles des peines ont été prononcées ou pas. Ce projet de loi est la résultante de la volonté affichée du gouvernement pour la paix et la réconciliation et au respect intégral de l'accord de réconciliation signé le 31 octobre 2023 entre le gouvernement et le Parti des Transformateurs sous l'égide du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi en sa qualité de facilitateur désigné par la CEAC pour la transition tchadienne, détaille le compte rendu signé du ministre de la Communication. Le président du parti Les Transformateurs, Succès Masra, est rentré vendredi au Tchad, 3 jours après avoir passé un accord avec le pouvoir militaire et après 1 an d'exil consécutif à la répression sanglante de la manifestation du 22 octobre 2022. Dans l'accord de principe signé à Kinshasa, le gouvernement s'était engagé à faciliter le retour de M. Masra, garantissant le libre exercice de ses activités politiques. En retour, l'opposant promettait de continuer le dialogue en vue d'une solution politique pacifique au Tchad.
Au moins une douzaine de dissidents ont été réquisitionnés au Burkina Faso pour participer à la lutte anti-djihadiste, a déploré mercredi Human Rights Watch dans un communiqué transmis à l'AFP après des dénonciations similaires par des membres de la société civile du pays. Entre le 4 et le 5 novembre, les forces de sécurité burkinabées ont notifié par écrit ou par téléphone à au moins une douzaine de journalistes, d'activistes de la société civile et de membres de partis d'opposition qu'ils seraient réquisitionnés pour participer aux opérations de sécurité du gouvernement dans tout le pays, a écrit Human Rights Watch. Un décret de mobilisation générale a été signé à ce sujet en avril, mais selon Ilaria Allegrossi, chercheuse sur le Sahel pour l'ONG, le régime militaire utilise cette mesure d'urgence pour réduire au silence la dissidence pacifique et punir ses détracteurs. L'armée malienne a dit hier avoir frappé 2 engins blindés abandonnés selon elle par la mission de l'ONU dans son retrait de la ville de Kidal. John Linden.
La surveillance aérienne menée mardi et mercredi a identifié des terroristes en possession de 2 engins blindés abandonnés par la MINUSMA à Kidal, a dit l'armée sur les réseaux sociaux. Les 2 blindés ont été neutralisés par les vecteurs aériens de l'armée, a dit cette dernière. L'armée procède à des frappes aériennes depuis la fin de la semaine dernière à Kidal, dans le sillage du retrait de la MINUSMA de cette ville bastion de la rébellion Touareg et enjeu majeur de souveraineté pour l'État central. Des frappes menées mardi par des drones ont tué 14 civils, dont des enfants, selon la rébellion. Ces frappes confirment les craintes d'une confrontation à laquelle les quelques dizaines de milliers d'habitants de la ville se préparent en raison du désengagement de la MINUSMA.
Les autorités de Guinée ont offert hier une récompense de 54 000 euros pour la capture de Claude Pivi, un ancien haut responsable qui s'est évadé de prison samedi au cours d'une opération commando. Eric Manera Kidza.
Claude Pivi, un ancien membre influent de la junte au pouvoir en Guinée entre 2008 et 2009, est toujours activement recherché à l'échelle nationale et internationale, selon le ministre de la Justice, Alphonse Charles Wright. Les autorités offrent une récompense de 500 millions de francs guinéens, soit plus de 54 000 euros, à quiconque aidera à son arrestation. Le ministre a ordonné au procureur de prendre toutes les mesures nécessaires pour le retrouver. Samedi dernier, des hommes lourdement armés ont extrait Moussa Dadis Camara et trois autres de la prison centrale de Conakry. Le capitaine Dadis Camara et deux autres prisonniers ont été repris le jour même. Moussa Dadis Camara, Claude Pivi, toujours en cavale, et neuf autres comparaissent depuis septembre 2022 devant un tribunal pour leur implication dans le massacre survenu le 28 septembre 2009 dans un stade de la banlieue de Conakry.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont mené hier des frappes contre un dépôt d'armes situé dans l'est de la Syrie, qui selon le Pentagone était utilisé par le corps des gardiens de la révolution iranienne et des groupes qui y sont affiliés. Des soldats américains et des membres de la coalition ont été attaqués à au moins 40 reprises en Irak et en Syrie depuis le début du mois d'octobre par des combattants soutenus par l'Iran, alors que les tensions s'exacerbent en raison du conflit opposant Israël au Hamas. Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a déclaré dans un communiqué que deux avions de combat F-15 avaient mené des frappes en réponse aux récentes attaques contre des soldats américains, ajoutant que ces attaques devaient cesser. Si les attaques soutenues par l'Iran contre les soldats américains continuent, nous n'hésiterons pas à prendre les mesures nécessaires afin de protéger les nôtres, a-t-il dit. Des milliers de civils palestiniens ont fui mercredi le nord de la bande de Gaza, pilonné par les bombardements d'Israël, qui affirme resserrer son étau autour de la ville de Gaza et sur les combattants du Hamas. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a de nouveau exclu mercredi tout cessez-le-feu sans la libération des otages enlevés par le Hamas le 7 octobre lors de son attaque sur le sol israélien qui a déclenché la guerre. La guerre entre Israël et le Hamas, l'avortement, l'économie, 5 candidats républicains à la présidentielle américaine de 2024 se sont affrontés lors d'un nouveau débat télévisé tendu hier soir à Miami, en Floride, réservant toutefois des pics acides à l'ancien président Trump, grand favori des primaires et grand absent de la soirée, Jacques Aristide.
Au sujet du conflit au Moyen-Orient, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, l'ex-ambassadrice à l'ONU, Nikki Haley, le sénateur Tim Scott, l'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, et l'entrepreneur Vivek Ramaswamy, ont affiché un soutien inconditionnel à Israël. Désaccord toutefois sur la guerre en Ukraine, Washington étant le fournisseur le plus important d'aide militaire à Kiev. Certains d'entre eux ont appelé à couper purement et simplement le robinet à l'Ukraine. Les cinq prétendants républicains se sont également écharpés lors du débat sur la meilleure marche à suivre sur le dossier politiquement explosif de l'avortement. Plusieurs d'entre eux ont ainsi imputé directement à Donald Trump les échecs des républicains dans les urnes lors des différents scrutins locaux mardi, largement favorables aux démocrates, même dans des États traditionnellement conservateurs. Justement, Donald Trump, lui, a tenu au même moment un grand meeting de campagne dans une ville voisine de Miami, à 18 kilomètres seulement du plateau de la chaîne NBC, où a été organisé le débat.
Le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping devraient se rencontrer le 15 novembre à San Francisco pour le premier sommet entre les deux puissances depuis un an, a appris l'AFP de sources proches du dossier. La rencontre se tiendrait en marge d'un sommet de l'APEC, la coopération économique Asie-Pacifique, les États-Unis participant au sommet en tant qu'hôte et la Chine comme membre. Les deux parties n'ont pas encore fixé la date, mais elles ont pris leur disposition pour que la rencontre ait lieu le mercredi 15 novembre, ont fait savoir un responsable américain et un diplomate basé à Washington qui ont tous deux requis l'anonymat. La Minute Éco, John Linden.
Le chiffre d'affaires cumulé des startups spécialisées dans les fintech, les technologies financières actives en Afrique, devrait atteindre 15 à 20 milliards de dollars en 2028, contre 3 à 4 milliards de dollars en 2022, enregistrant une croissance moyenne de 30% selon l'agence Ecofin, qui cite un rapport publié par le cabinet de conseil McKinsey & Company. Le secteur de l'artisanat représente plus de 40% du tissu économique de la Côte d'Ivoire pour une contribution de 12% au produit intérieur brut. Financial Afrique, qui publie cette information, cite une déclaration du ministre du Commerce et de l'Industrie à l'ouverture de la 5e édition du marché ivoirien de l'artisanat. Au Cameroun, les centrales à gaz de Kribi et Fuel de Dibamba pourraient bientôt reprendre du service. Globelec, producteur d'électricité indépendant, aurait reçu 5,7 milliards de francs CFA du Cameroun pour redémarrer les centrales à gaz donc de Kribi de 216 MW et à Fuel de Dibamba, soit 88 MW. Cette somme s'ajoute aux 2 milliards de francs CFA déjà reçus des NEO le 27 octobre 2023.
Merci John. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Football avec la Ligue des champions féminines africaines qui se poursuit en Côte d'Ivoire.
Les rencontres de la deuxième journée ont débuté hier. Le groupe B dispute ses matchs aujourd'hui à San Pedro. Après sa défaite d'entrée, l'AS FAR de Rabat, champion en titre, veut se relancer face aux Équato-Guinéennes d'Ourakan. Dans le deuxième match, les Maliens de l'AS Mandé jouent contre les Ghanéennes d'Apem Dankwa. Hier, dans le groupe A, basé à Kourougou dans le Nord, après leur début réussi, les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns ont battu le club marocain des Sporting de Casablanca 1-0. Les Sud-Africains se qualifient ainsi pour les demi-finales. Bien avant, l'Atlético FC d'Abidjan s'est incliné devant les Tanzaniennes de JKT Queens 2-1.
Athlétisme, Caster Semenya poursuit sa lutte contre la Fédération internationale d'athlétisme.
L'athlète sud-africaine hyperandrogène dit ne pas avoir honte d'être différente. Elle se dit déterminée à se battre jusqu'au bout pour les femmes, pas prise au sérieux selon elle par les autorités sportives. Je vous propose ce sujet que j'ai réalisé sur elle.
Les Jeux olympiques de Paris ne sont plus l'objectif de la double championne olympique du 800 mètres, Caster Semenya.
Les Jeux olympiques de Paris ne sont pas vraiment mon objectif. Mon objectif est plus de gagner mes batailles contre les autorités, me battre pour ce qui est juste.
World Athletics a décidé que les athlètes féminines présentant des différences de développement sexuel devaient réduire médicalement leur taux de testostérone pour participer aux compétitions. Concernées, Caster Semenya parle de discrimination contre des athlètes souffrant d'hyperandrogénie, caractérisée par des niveaux de testostérone plus élevés que la normale, une hormone qui augmente la masse musculaire et la force. La Sud-Africaine de 32 ans a porté l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme, laquelle lui a donné raison. L'arrêt rendu en juillet dernier n'invalide toutefois pas le règlement de World Athletics et n'ouvre pas directement la voie à son retour sur les 800 mètres sans traitement. La double championne olympique 2012 et 2016 et triple championne du monde du 800 mètres estime que les règlements de World Athletics sont une question raciale, ce que nie la Fédération internationale d'athlétisme.
Elle ne vise que les Africains et les Asiatiques parce que ce sont les seuls athlètes qui sont concernés par cette situation. La question que vous soulevez en tant que femme est la suivante. Est-ce dans l'intérêt du sport féminin ou dans l'intérêt de certaines femmes?
La Suisse a saisi la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme, sorte d'instance d'appel dont les décisions sont définitives.
Merci,
Le Monde.
Yacouba.
Aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, un collectif d'avocats dit informer l'opinion nationale que depuis le dimanche 5 novembre, des personnes ont été contactées par téléphone pour s'entendre dire qu'elles sont réquisitionnées pour participer à la lutte contre le terrorisme. Le collectif affirme que certaines de ces personnes ont reçu des actes intitulés ordre de réquisition, signé par le commandant du commandement des opérations du Théâtre national. Yacouba Ouédraogo a joint Daouda Diallo, coordonnateur du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, lui-même parmi les personnes réquisitionnées.
Mon appréciation personnelle par rapport à cette réquisition et même collective, dans le cadre de notre collectif des syndicats et des OSC, c'est très clair, c'est une réquisition arbitraire, punitive et même criminelle. En ce sens que ça vise même à dévoyer tout l'intérêt du décret de 2023 portant mobilisation générale et mise en garde, qui n'est pas respecté dans ses dispositions et dans son esprit. Parce que la loi prévoit très clairement de mobiliser des citoyens ou des personnes physiques pour soutenir l'effort de la guerre, mais pas dans une visée punitive, répressive ou dans le sens d'étouffer toute voix discordante.
Pourquoi vous dites que c'est une décision punitive dans la mesure où, sur le plan légal, il y a effectivement cette loi d'avril 2023 qui prévoit la mobilisation générale?
Elle est punitive et même arbitraire parce que l'adhésion au volontariat ou la défense de la patrie, c'est une question de volontariat. Et deuxièmement, quand on est sollicité, c'est pour un travail spécifique et ça doit être précisé dans le motif de la réquisition, ce qui n'est pas fait. Et les informations que nous recevons venant de ceux qui ont déjà été enrôlés de force ou déportés de force sur le terrain, c'est des traitements dégradants, de torture humiliante qu'ils ont subi, surtout sur le terrain. Voilà, ça qu'on leur dise concrètement ce qu'ils devaient apporter à la lutte. Troisièmement, la lutte là, aujourd'hui s'articule sur la logique du tout militaire, ce qui n'est pas la conception de bon nombre d'acteurs aujourd'hui au Burkina Faso, parce que la logique du tout militaire depuis 2015 à nos jours est un échec absolu sur le terrain. Et donc, on n'est pas d'accord non seulement sur la stratégie qui est déployée, et deuxièmement, on n'est pas volontaire pour soutenir l'équipe actuelle qui avait promis d'apporter la sécurité et la sérénité au Burkina en 3 mois.
Daouda Diallo, lorsqu'on parle de réquisition, il n'y a plus question d'être volontaire ou pas.
La loi, elle est très claire là-dessus. Elle ne doit pas être abusive. Elle doit être précise avec les motifs très bien définis. Aujourd'hui, c'est surtout les activistes pro-pouvoir qui décident de qui doit aller au front. Ces activistes aujourd'hui, à travers les commentaires qu'ils font sur ton profil ou sur les profils de nos pages, apparemment c'est eux qui orientent le pouvoir dans la réquisition des citoyens burkinabés qui donnent leurs avis critiques et constructifs dans la marche de la nation. Parce que quoi qu'on dise, il n'y a pas de résultats tangibles aujourd'hui qu'on peut présenter pour donner de l'espoir au peuple burkinabé. Certes, il y a des efforts qui sont faits, mais ce n'est pas à la hauteur des attentes.
Daouda Diallo, coordonnateur du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
En Centrafrique, depuis le forum de Bangui de 2015, plusieurs initiatives ont été entreprises pour tenter de rétablir la paix dans la commission Vérité et Réconciliation. Nathalie Barge a eu un entretien avec Antoinette Montaigne, ancienne ministre de la Réconciliation et membre de cette commission.
En Afrique du Sud, il y avait un processus politique qui était enclenché où l'apartheid, en tant que système qui a présidé aux destinées de ce pays pendant des décennies, était remise en question par tout le monde. On était d'accord pour passer à la phase de la vérité et purger le passif de tout ce qui s'est passé. Il y a des conflits multiformes aujourd'hui sur le continent et ces conflits ne sont pas achevés. Et donc, les commissions vérité viennent là pour essayer de casser la dynamique des conflits par une dynamique positive de concession de la paix. Et c'est là tout le défi et les enjeux qui se présentent dans différentes configurations aujourd'hui en Afrique.
Vous êtes membre de la commission Vérité et Réconciliation en Centrafrique et on a également les tribunaux spéciaux, enfin la Cour pénale spéciale. Pourriez-vous nous dire comment ça se passe, la relation entre ces deux structures ?
La Cour pénale spéciale va mener des investigations dans un cadre juridictionnel pour pouvoir condamner les personnes reconnues coupables. Tandis que la Commission Vérité, Justice, Réparation, Réconciliation a un rôle non juridictionnel. Le rôle de la Commission Vérité en Centrafrique, c'est notamment de décrire la mémoire historique. La mémoire historique écrite par le peuple centrafricain, pas par les institutions. C'est là la différence de taille, parce qu'il est question que, avec les vécus des crises successives depuis plusieurs décennies, à commencer par la disparition tragique de Barthélemy Bouganda, le père fondateur, en 1959, jusqu'en 2019, soit 60 ans d'histoire, il est question de passer, de refaire faire surface la mémoire des populations, des communautés et même des institutions sur comment ces crises ont été vécues qui expliquent aujourd'hui la situation du pays. Donc, il n'y a pas d'obligation de témoigner, il y a une volonté d'ouvrir ce cadre, cet espace à toutes les institutions, aux universités, aux localités, aux communautés, aux différents corps sociaux de pouvoir témoigner et aux individus naturellement, aux victimes et aux témoins.
Docteur Antoinette Montaigne, hein, on a bien précisé tout à l'heure qu'on a des commissions vérité-réconciliation dans plusieurs pays sur des conflits finalement qui sont encore en cours. C'est le cas notamment dans votre pays. Comment vous l'expliquez ? Est-ce que l'on peut parler d'échec d'une certaine manière, en tout cas de difficulté à accéder vraiment à cette paix dans votre pays ?
En 2014, quand la stratégie a été mise en place pour proposer la réconciliation nationale, il y avait la possibilité de travailler sur la question de la commission vérité et c'est venu 5 ans après, le premier mandat du retour à l'ordre constitutionnel était presque achevé lorsque la loi a été votée. Si on était resté sur les accords qui ont eu lieu en 2015 en marge du forum national de Bangui, c'est-à-dire l'accord politique pour la paix et la réconciliation et les recommandations de tous les délégués venus de toutes les régions de Centrafrique, normalement, il n'y avait pas de raison d'avoir encore un conflit qui se poursuit. Ce qui montre aussi que cette commission, elle est nécessaire parce que le temps du forum de Bangui après les consultations là-bas n'a pas permis d'aller en profondeur.
Antoinette Montaigne, ancienne ministre de la Réconciliation, membre de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation en Centrafrique.
La voix de l'Amérique, Bangui 101.7 FM.
Les Nations Unies continuent de réclamer un cessez-le-feu humanitaire à Gaza alors que les combats se déroulent à l'intérieur de la ville. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, qui déplore 88 morts au sein de son personnel, lance un appel pour épargner les civils. Abdourahmane Diaz s'est entretenu avec la directrice de l'UNRWA, Juliette Touma, jointe à Amman en Jordanie.
C'est terrible. Je ne pense pas qu'il y ait de mots qui puissent rendre justice à ce qui arrive aux civils dans la bande de Gaza, alors que l'agence accueille à elle seule 700 000 personnes dans 150 abris. Toutes ont été déplacées, forcées de fuir leur maison. Il s'agit d'un déplacement forcé et d'une punition collective. Gaza et ses habitants, ses civils, ses familles subissent un siège très très strict depuis près de mois maintenant. Les denrées alimentaires sont très rares, l'aide humanitaire qui arrive est très très limitée. Les bombardements sont constants et beaucoup, beaucoup de souffrances.
Quelle est la situation dans le camp de Jabalia après les bombardements? Et où sont les gens?
Il y a toujours des gens dans le nord de la bande de Gaza, y compris dans le camp de Jabalia. Le camp de Jabalia est le plus grand camp de réfugiés palestiniens de toute la bande de Gaza et c'est l'un des plus anciens et l'un des plus surpeuplés. Il comptait autrefois 125 000 personnes. Nous estimons qu'environ 30 000 personnes continuent de vivre à Jabalia, y compris dans nos abris.
Justement, votre agence fait du travail humanitaire, mais qu'en est-il du personnel? Comment cela se passe pour le personnel? Quelle est la situation un peu pour eux?
À Gaza, notre agence est le plus grand acteur humanitaire. C'est le plus grand acteur humanitaire et nous sommes présents depuis plus de 70 ans. Cette décennie de travail formidable que l'agence a accomplie avec et pour les communautés palestiniennes. Vous savez, nous donnons des écoles, par exemple. Nous sommes la seule agence des Nations Unies au monde à gérer des systèmes scolaires à part entière. La grande majorité de notre personnel, 13 000 personnes, qui travaillent avec l'agence sont des enseignants et, ironiquement, le nombre d'enseignants que nous avons perdus depuis le début de cette guerre est le plus élevé de tous ceux que nous avons perdus. Notre personnel est affecté, exactement comme les communautés. Notre personnel à Gaza est issu des communautés et travaille avec elles. Il est très touchant de voir leur formidable volonté et leur énergie, malgré le fait qu'ils ont subi des pertes massives, malgré le fait qu'ils ont été déplacés eux-mêmes et qu'ils continuent à travailler pour ceux qui le peuvent. Ils continuent à rendre service aux personnes dans le besoin avec le peu de matériel dont dispose encore l'agence. Et ils continuent d'être les héros méconnus des communautés. Ce sont des héros méconnus.
Juliette Touma, directrice de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Ici aux États-Unis, les élections locales qui se sont tenues mardi ont commencé à livrer leur verdict. La démocratie a gagné et Make America Great Again a perdu, s'est réjoui le président Joe Biden, en référence à un slogan cher à Donald Trump, son potentiel adversaire à la présidentielle prévue l'année prochaine. Que faut-il retenir de ces élections? Écoutons Mohamed Oumfa.
En Virginie, le gouverneur républicain Glenn Youngkin a perdu sa majorité à la Chambre des délégués et devra cohabiter. Youngkin voulait profiter du renouvellement complet de la législature locale pour s'y arroger le contrôle des deux chambres, jusqu'ici partagées entre les deux partis. C'est un pari raté. Dans le Kentucky, le gouverneur démocrate Andy Beshear a remporté un deuxième mandat dans cet État où Donald Trump avait remporté l'élection avec une marge de plus de 25 points en 2020. Il a battu Daniel Cameron, un procureur général de l'État ayant des liens étroits avec M. Trump et le chef des Républicains au Sénat, Mitch McConnell. À New York, le démocrate Youssef Salam a été élu au conseil municipal. Il est l'un des 5 adolescents afro-américains et hispaniques condamnés à tort pour le viol d'une joggeuse à Central Park en 1989, l'une des plus célèbres erreurs judiciaires aux États-Unis. La victoire, très symbolique, a été fêtée dans son quartier d'Harlem.
C'est avec beaucoup d'humilité et d'honneur que je me présente devant vous en tant que conseiller municipal nouvellement élu du village légendaire de Harlem.
À Philadelphie, pour la première fois, une femme démocrate devient maire. Il s'agit de Cheryl Parker, une ancienne conseillère municipale. Un autre démocrate, Gabe Emo, est le vainqueur des élections au Congrès du Rhode Island. Il sera le premier noir à représenter l'État au Congrès. Au Minnesota, Nadia Mohamed, 27 ans, est devenue la première femme noire, la première somalienne et la première musulmane à être élue maire de Saint-Louis Park. Autre scrutin suivi de près à travers le pays, dans l'État de l'Ohio, contrôlé par les Républicains, l'on a voté pour décider d'inscrire ou non la protection du droit à l'avortement dans la Constitution de l'État. Les électeurs ont approuvé l'inscription de ce droit, selon les projections des médias, accordant une victoire retentissante aux défenseurs de l'IVG et aux démocrates du président Joe Biden. Un an avant la présidentielle, c'est une victoire qui fait du bien au président Biden. lui qui est en mauvaise posture dans les sondages.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seludia, à la mise en onde, Firmin Koyaweda, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, X, l'ex Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.